Bonjour Église de l'Épi, bonjour à tous et à toutes et surtout chers internautes. Nous sommes heureux d'être là ce matin avec vous. On n'est pas bien là ? Ce matin, nous allons élever le nom de Jésus et surtout dire et déclarer qu'il est l'auteur de notre joie. Vous êtes prêts ? Déclarer le nom de Jésus ce matin. Amen. Que tout le monde résonne.
Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Chantons que ton nom résonne,
que ton nom résonne en ce lieu,
que ton nom résonne en ce lieu,
que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu.
Que les murs,
que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus.
Oh, 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 que ton nom résonne en ce lieu.
Que ton nom résonne en ce lieu.
Que ton nom résonne en ce lieu.
Que ton nom résonne en ce lieu. Résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu.
Que
les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Et pense sur nous.
Jésus, nous chantons ton nom
en ce lieu.
Oui, nous invoquons ton nom
en ce lieu.
Oui, nous te proclamons roi
en ce lieu.
Tu es Seigneur des Seigneurs
en ce lieu.
Jésus, nous chantons ton nom.
Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a tout donné, il nous a rachetés à un tel prix. On ne veut pas manquer de l'adorer, de le louer ce matin. Alors que nous étions brisés, il était là, il est venu pour nous chercher. C'est ce que nous voulons chanter maintenant. Ta grâce est infinie, Jésus.
J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce à de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais rentre de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois.
De prendre nos échecs, nos fardeaux. Alléluia.
Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur.
Je veux élever ma voix parce que tu m'as sauvée, tu as tout donné. Tu as donné ton Fils, Seigneur. Tu as donné ton Fils, ton précieux, ton unique, pour me sauver, pour nous sauver. Alors je veux reconnaître ta majesté, je veux reconnaître que tu es bon. Je veux reconnaître combien tu nous aimes. Alléluia. D'élever nos voix pour louer sa grandeur, pour louer sa majesté. Élève ta voix, car il en est digne. Son amour est plus grand.
façonné notre vie, tu la travailles chaque jour, Seigneur, et tu nous sommes de te célébrer. Merci parce que nous sommes plus sur le Père, nous avons un Père, Seigneur, qui nous conduit, qui nous accompagne. On veut juste bénir ton nom pour ce matin, Jésus. Merci, Seigneur, de ta grâce que nous avons de faire partie de ce milliard de communautés chrétiennes, Seigneur, qui partout dans le monde élèvent ton nom, qui partout dans le monde sont bénéficiés de ton amour et de ta grâce. Seigneur, les mots sont bien trop petits, Seigneur, pour décrire ton œuvre envers. Nous voulons juste encore t'offrir nos cœurs ce matin, Père. Merci pour ta grâce et ton amour.
Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Ton amour est bien plus grand que tout pour nous. Alléluia. S'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi
tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur, tu es.
Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur,
tu es.
Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur.
Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour.
Voilà, alors qu'on reste dans cet état d'esprit de prière, croyons que Dieu communique aujourd'hui de plusieurs façons et nous sommes dans une église qui croyons que Dieu parle par son Saint-Esprit au travers de personnes à qui il va communiquer des pensées, des dons, etc. Et on voudrait pouvoir permettre d'exercer cela ce matin. Je vais inviter, tu peux venir, viens ici à la lumière.
Bonjour église. J'ai reçu comme trois paroles que j'aimerais soumettre à l'Église. C'est une parole, mais qui s'adresse à trois catégories de personnes. Tu te questionnes, tu te demandes si je suis là, si je t'écoute et si je t'exauce. Je t'ai écouté pour la première catégorie. Je t'ai écouté et je t'ai exaucé. Ce n'est juste pas encore le temps de la manifestation. Attends dans l'action de grâce. À la deuxième catégorie, tu te dis, je dors, réveille-moi, rappelle-moi mes promesses et déclare-les à tes réalités, établis mon règne par ta parole. À la troisième catégorie, tu murmures, tu te plains, et si tu changeais tes murmures en requêtes de prière, je t'invite à demander, à formuler clairement ce que tu veux que je fasse pour toi. Amen.
Nous venons de chanter un chant qui parle de la peur et que l'amour de Dieu couvre la peur. Et je crois que le Seigneur veut nous communiquer la pensée suivante. Beaucoup d'entre nous, même tous d'ailleurs certainement, on a tous peur de quelque chose, de quelqu'un, d'un événement, d'un temps, etc. Ça peut être la peur, le stress, l'angoisse, le mauvais stress, l'anxiété. Et le Seigneur veut attirer notre attention sur le fait que la peur, en fait, c'est une forme d'idolâtrie. Cette parole n'est pas une parole qui condamne, mais une parole qui a plutôt comme perspective de révéler. Pourquoi la peur peut être une idolâtrie ? Parce que, en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, nos regards sont comme fascinés par un problème ou une personne, quelque chose qui crée en nous cet état de peur, d'anxiété, de crainte. Parfois, ça peut être quelque chose de vague, mais ce qui veut dire que les regards, dans ce cas-là, se portent davantage sur cette chose-là, alors que nos regards devraient se porter davantage sur Dieu. Et le Seigneur veut nous dire, je vous comprends, je sais les difficultés que vous pouvez ressentir. Pour certains, ces peurs sont tellement lointaines, ancrées dans l'enfance, que ça vous semble strictement impossible de les dépasser. Et il y a comme quelque chose en vous, un mécanisme viscéral qui vient, revient, un peu comme les vagues de la mer et qui touchent, atteignent votre âme et votre pensée et votre mode de vie et vos réactions. Pour d'autres, c'est des choses plus objectives. À cela, eh bien, le Seigneur dit, considère le problème en lui-même et considère-moi et ce que moi je peux faire. Décide de me remettre ce problème-là. Il y a une partie que toi, tu peux faire et une partie où c'est mon Saint-Esprit, mon esprit qui peut t'aider à t'en défaire. Pour les autres, pour ceux pour qui c'est quelque chose de plus profond, de plus lointain, de plus enraciné, le Seigneur dit, regardez, considérez que j'étais là depuis le début de votre vie et que je suis en capacité, moi, de connaître les origines de ces problèmes-là, de cette anxiété. Demandez-moi d'en enlever les racines et moi, je peux enlever les racines. Vous avez peut-être votre part à faire, ça le Seigneur verra avec chacun, mais ce qu'il veut dire, c'est renforcer l'espérance de ces personnes en disant, mais je peux, moi, enlever les racines et quelque part comme reconstruire quelque chose. Oui, je sens vraiment que le Seigneur veut dire, je peux le faire. Croyez-moi, vous êtes peut-être dans cette détresse depuis tout le temps, mais le Seigneur dit, mais moi, je peux. J'ai ouvert la mer, je peux aussi ouvrir votre cœur et en sortir ce qui a été planté, qui est une racine qui vous fait mal. Oui, vraiment, je sens que le Seigneur dit, je peux le faire. Croyez-moi, je peux le faire. Je peux le faire.
Amen. Je vous propose, juste avant qu'on reprenne le petit chant, de peut-être se lever ce matin. Peut-être c'est ton cas et tu es interpellé par une de ces paroles. Pour les autres, de vous lever aussi et de prier pour ces personnes qui seront dans cette salle. Vous savez, Dieu est un Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Et il le fait aussi par la prière. On veut juste tourner nos regards, répondre en prière ce matin, peut-être dans notre cœur, dire « Seigneur, je suis cette personne. Je suis cette personne qui est frustrée parce que je n'ai pas vu l'exaucement alors qu'il est en cours. Je suis cette personne qui a peur et qui suis paralysée et j'ai besoin de ton action. Je suis cette personne qui est emprisonnée, où il y a des racines et j'ai besoin, Seigneur, que tu transformes et que tu agisses en profondeur dans ma vie. » Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble ce matin, Église ? Pour demander à l'œuvre du Saint-Esprit de se faire dans ce lieu. Merci Père, parce que tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui est là lorsqu'on décide ensemble de se tourner vers toi. Et je te prie Seigneur pour celles et ceux qui seraient interpellés d'une manière ou d'une autre dans leur cœur ce matin. Je te prie Seigneur par la touche de ton esprit de venir mettre la paix là où il y a du trouble. De venir susciter la foi là où il y a de l'incrédulité, où il y a du doute. D'assurer ta paix, Seigneur, là où il y a un manque de persévérance alors que la victoire est aux portes. Je te prie de souffler ce matin dans ce lieu. Seigneur, on veut te prier pour toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont chahutés dans leur foi ce matin, Père. Je te prie, Seigneur, que tu viennes passer encore par ton esprit, Seigneur, dans les rangs ce matin. Que le baume de ton esprit vienne agir sur les plaies, Seigneur, peut-être des plaies qui sont à vif ce matin. Saint-Esprit, je te prie de venir toucher encore. Merci Père, parce que tu nous as dit de faire connaître nos besoins, nos requêtes, Seigneur, par des supplications. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Nous voulons être ce peuple qui est attaché à toi. Seigneur, on ne veut pas regarder à nos peurs, mais on veut regarder au Dieu qui contrôle les cieux et la terre. Au Dieu souverain, au Dieu qui est assis sur son trône. Merci Père, parce que même si le monde tremble, notre Dieu ne tremble pas. Tu es au contrôle ce matin encore, Seigneur. Oh Saint-Esprit, je te prie d'agir encore comme toi seul tu sais le faire ce matin, Père. Alléluia. On va répondre à ces appels au travers de ces quelques paroles.
Connaître plus encore, je veux
toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie tout en moi, tout en moi. Et ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie.
On n'est pas bien là, dans la présence du Seigneur. Merci Michel pour cette punchline qui nous restera marquée à vie. Voilà quelques temps de communication pour l'Église avant de laisser la place à Michel qui va poursuivre notre série sur l'étude de l'Épître aux Hébreux. Donc quelques annonces, on vous rappelle, avec l'association Hope and Joy, il y aura une formation qui aura lieu les 15 novembre et les 31 janvier ici à l'EPI. C'est pour tous ceux qui ont ce désir d'accompagner les personnes en situation de prostitution ou en danger de le devenir. Donc l'objectif, c'est des gens qui ont à cœur l'évangélisation et notamment sur ce public particulier. Nous voulons aimer. L'Église est appelée à être les pieds et les mains de Jésus en action. Et ces gens ont besoin de la grâce de Dieu. Ces personnes ont besoin de la grâce de Dieu et on veut juste les entourer. Donc s'il y a quelque chose qui fait écho dans votre cœur, allez à l'espace Vie d'Église à la sortie. Il y a les flyers, il y a le QR code, vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé. La semaine prochaine, nous aurons aussi le dimanche de l'Église persécutée. Pour l'occasion, nous aurons un des responsables de Portes Ouvertes de Strasbourg qui sera avec nous dimanche prochain pour nous parler de la persécution, de ce que certains chrétiens, à cause du nom de Jésus, vivent dans le monde, un petit peu partout. Il aura l'occasion de partager aussi la bonne nouvelle de Jésus. Donc, pour nous, c'est pas aujourd'hui, même si c'est aujourd'hui la journée, parce qu'il était dispo la semaine prochaine. Mais du coup, on aura notre temps pour l'Église persécutée dimanche prochain, ici à 10h. Vous avez remarqué qu'il commence à faire froid et je ne sais pas si vous avez vu le sapin commence, il y a des choses qui commencent à s'installer dans Strasbourg. Ben pour l'EPI c'est pareil, nous aurons bientôt l'EPI fait son marché de Noël, donc cet rendez-vous traditionnel que nous faisons au bénéfice de notre association Enjeu, vous savez le bras armé culturel de l'église de l'EPI qui sert à venir en aide à des gens en situation de précarité mais aussi pour tout notre volet jeunesse et tous les événements qui sont organisés pour que nos jeunes puissent faire la paix avec Jésus. Donc ça sera le dimanche 30 novembre 2025. Il y aura toutes sortes de choses dans le hall. Vous pourrez vous faire des petits cadeaux, préparer vos achats de Noël avec un bénéfice qui ira pour faire la différence encore dans la vie des gens. Ensuite, nous Nous avons une communication sur ce bâtiment. Vous savez, depuis quelques semaines, nous sommes dans notre campagne de levée de fonds pour l'espace de rencontre, les pistes, un lieu où, pas seulement le dimanche, mais tous les jours de la semaine, il y a des rencontres, il y a des temps où les gens peuvent connecter, être encouragés, être formés, être équipés, être au bénéfice aussi via enjeu de colis alimentaires. Donc, notre campagne a commencé depuis quelques jours. Il reste un mois dans cette première étape de collecte de fonds. On le rappelle qu'il y a destination des amis de l'EPI, pas directement à vous, mais aux amis de l'EPI. Donc, on vous rappelle qu'il y a trois axes sur notre campagne. C'est prier, c'est donner et partager. Alors cette semaine, dans le cadre du jeûne et prière, on a eu l'occasion de se tenir ensemble pour prier, pour que Dieu pourvoie à nos besoins en termes financiers, pour que nous puissions continuer d'exister ici sur la place de Strasbourg. Vous savez qu'il y a, si les travaux ne sont pas faits, ce bâtiment sera fermé. Voilà pourquoi on est obligé de s'engager dans cette mise aux normes des travaux, non seulement pour pas qu'on nous ferme le bâtiment, mais pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions des plus jeunes aux moins jeunes dans ce lieu pour vivre quelque chose avec Jésus. Donc un temps de prière. Il y a des dons aussi qui nous sont encore parvenus cette semaine et vraiment on est reconnaissant des amis de l'EPI qui ont envoyé. Alors si vous venez juste de nous rejoindre, que vous êtes interpellé, dirais-je, j'ai pas eu encore l'occasion de participer. Il y a tout ce qu'il faut au point à l'espace vie d'église aussi pour pouvoir nous soutenir, sachant que vos dons vous ouvrent des droits à des réductions fiscales au niveau des impôts. Et bien sûr, relayez un maximum. Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc. N'hésitez pas à repartager, ça permet à des gens de voir qu'il se passe des choses, qu'il y a encore des gens qui s'intéressent à des gens dans le besoin, qui veulent faire une différence. Et souvent, il y a des gens qui sont généreux quand ils voient qu'il y a des associations qui portent quelque chose, qui portent des valeurs, et ils veulent y participer. Donc n'hésitez pas à relayer, c'est juste un partage, un clic, mais ça fait vraiment la différence. Donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait. Et on a une petite vidéo à vous partager pour ce matin.
Aujourd'hui, l'église de l'EPI est munie d'un bâtiment de plus de 4000 m2. Et on a l'obligation de pouvoir répondre à des exigences des commissions de sécurité pour pas qu'on ait de fermeture administrative courant 2026. Au fur et à mesure qu'on commence à travailler, qu'on commence à faire les analyses, on se rend compte que là, il va falloir mettre de l'argent dans des travaux. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre que ça va se compter en millions d'euros. Oui, les montants ont fait peur, c'est pas notre corps de métier. Et en même temps, on s'est dit, il y a un défi à relever et c'est une belle opportunité de faire en sorte que ce bâtiment puisse continuer d'accueillir et qu'on puisse continuer d'exister, d'être cette communauté-là. Concrètement, on veut accueillir les personnes en fauteuil roulant à mobilité réduite aujourd'hui, avec un ascenseur qui sera vraiment dédié pour ça, des espaces pour des services liés aux solidaires et repensés pour pouvoir être beaucoup plus accueillants pour les bénéficiaires des colis alimentaires. Et on veut vraiment un bâtiment qui est bien isolé. Toutes nos salles vont être fonctionnelles, vont être agréables à vivre parce qu'elles seront rénovées, parce qu'elles seront plus accessibles. L'acoustique est améliorée, la manière d'utiliser cet espace sera améliorée, que ce soit de la traduction à la projection, en passant par notre hall d'accueil qui va vraiment pouvoir être encore plus chaleureux, qui va pouvoir accueillir encore un peu plus de monde. C'est une remise en sécurité du bâtiment, mais en fait c'est une belle opportunité pour nous pour continuer à accueillir encore mieux les personnes, parce que pour nous chaque personne est importante.
Amen. Donc on n'oublie pas de liker et surtout de partager cette vidéo. Une dernière annonce pour toutes celles et ceux qui ont commandé du fromage à raclette pour au bénéfice là encore de nos actions jeunesse. C'est aujourd'hui que vous pouvez récupérer vos paquets. Donc ça sera au rez-de-chaussée bas à l'issue de la célébration. Si vous avez commandé du fromage à raclette ou du Mont d'Or ou je ne sais plus quoi, il y avait un tel choix de fromage, c'est aujourd'hui. N'y allez pas. En plus, il fait froid à midi, donc une bonne raclette, ça sera vraiment très bien. Voilà, je vais inviter Michel à s'approcher. On va prier encore pour ce temps. Seigneur Jésus, merci pour le message que tu as déposé sur le cœur de Michel ce matin, Seigneur, dans cette série sur l'Épître aux Hébreux, qui va nous parler de la foi et de ses combats. Je te prie vraiment, Seigneur, pour qu'il y ait une parole de ta part encore qui vienne forger quelque chose dans nos cœurs ce matin. Seigneur, on est conscient que sans toi, nous sommes perdus. Mais tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as laissé ta parole, Seigneur, pour être un point de repère aussi dans nos vies. Tu nous as équipés de ton Saint-Esprit pour nous conduire et nous rappeler les bonnes paroles qui viennent de toi, Seigneur. Alors je te prie encore pour ce matin, pour Michel, Seigneur, afin que nos cœurs soient ouverts et réceptifs à ce que tu veux encore faire dans nos vies en 2025, Seigneur. À toi la gloire et la louange. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Raymond Pierre. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Nous accueillons dans nos locaux ces jours-ci le pasteur Jean Ehouman, qui est secrétaire général du Bureau exécutif national des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas encore salué ce matin. Il est là. Il est là avec son épouse aussi. Voilà. Soyez les bienvenus. Bienvenue Jean. Pour vous donner une idée, il y a 2 millions de chrétiens dont ils ont la responsabilité avec le Bureau national, et ils représentent 1500 pasteurs. Ça fait du monde pour une population Côte d'Ivoire qui avoisine les 32 millions d'habitants. Donc bienvenue et bonne arrivée, comme on dit en Côte d'Ivoire. Chaleureuse bienvenue parmi nous. Nous sommes dans Hébreux 11 ce matin et nous poursuivons, comme l'a rappelé Raymond Pierre, notre étude sur les Hébreux. Et Hébreux 11 est connu pour être le chapitre de la foi, au même titre que 1 Corinthiens 13 est connu pour être le chapitre de... Formidable. C'est vrai qu'on est bien là. Alors l'auteur y développe le thème de la foi en nous présentant toute une galerie de témoins et de portraits, des hommes et des femmes qui ont persévéré dans les temps d'épreuves et de difficultés. Et il y a dans ce chapitre 11 comme un refrain qui revient, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et je remercie toute l'équipe de louanges ce matin pour ce temps de louanges, de prières, d'adoration, qui nous introduit bien, qui ouvre les cœurs et qui ouvre notre espace pour accueillir par la foi ce que Dieu a à nous dire. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est comme cela que nous sommes nourris. Nos semaines sont difficiles, parfois douloureuses, et nous avons accompagné ces derniers jours des familles en deuil, et nous avons besoin de la paix de Dieu, de la consolation de Dieu, et de nourrir nos âmes par la foi. Donc c'est un chapitre qui nous encourage dans notre marche personnelle avec le Seigneur. Et l'objectif, c'est que nous soyons inspirés, que nous soyons encouragés, stimulés dans notre foi, notamment lorsque nous sommes face à des épreuves et à des difficultés. Et le but de l'auteur est très clair. Hébreux chapitre 12 au verset 1 et 2, dans la version du Semeur, Hébreux 12 verset 1, voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixé sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parmi la foule de témoins, il y a 17 personnes qui sont mentionnées par leur nom dans une liste qui en contient beaucoup d'autres. On les a parfois présentés comme les héros de la foi ou les géants de la foi. Comme on dirait parfois de quelqu'un, c'est une légende. C'est un monstre sacré. En réalité, ces hommes et ces femmes sont des gens tout à fait ordinaires. Tout à fait ordinaires. Ce ne sont pas des super-héros, ce sont des gens tout à fait ordinaires, mais qui ont placé leur confiance et leur foi dans un Dieu extraordinaire. Et c'est ce qui leur a permis... Hein ? Le ciel est avec nous ce matin. C'est ce qui leur a permis de vivre une vie extraordinaire. Leur force, leur courage a été récompensé. En réalité, donc, ce ne sont pas de super-héros. C'est la raison pour laquelle ils ont vécu donc une vie qui est hors du commun, parce que Dieu est hors du commun. Ils ont traversé des épreuves et ils vivaient en communion avec Dieu et celui qui est au-dessus des difficultés et des épreuves. Les saisons d'épreuves, frères et sœurs, peuvent devenir fécondes pour la foi. Elles nourrissent elle développe notre foi à toute épreuve. En fait, la seule manière d'obtenir une foi à toute épreuve, c'est de traverser des épreuves. C'est de vivre des saisons d'épreuves. Parce que la foi, finalement, elle est comme un muscle. Elle a besoin d'exercice. Elle a besoin d'entraînement. C'est comme quand vous êtes dans une salle de sport. Vous faites travailler vos muscles. Il y a des pressions, des tensions, des extensions. La foi, de la même manière, a besoin d'exercice et d'entraînement. Jérémie, au chapitre 12 et au verset 5, dira ceci, et c'est une parole que j'aime beaucoup. « Si déjà tu t'épuises à courir avec des piétons, comment donc tiendras-tu en courant avec des chevaux ? S'il te faut un pays tranquille pour ta sécurité, qu'adviendra-t-il de toi lorsque tu feras face à la crue du Jourdain ?» En d'autres mots, oui, tu traverses une saison difficile, mais je veux te préparer à affronter des saisons encore plus difficiles. Vous êtes sans doute comme moi, vous observez un petit peu notre société, notre monde, et on a l'impression qu'on va aller vers des temps de plus en plus difficiles. Et je crois que le Seigneur est en train de préparer son Église pour des temps autrement plus sévères et plus difficiles. Et pour cela, bien, il nous entraîne dans notre foi. Il nous donne l'occasion de fortifier notre foi. Dieu prépare en permettant que notre foi soit défiée. Alors, trois directions dans lesquelles je voudrais aller avec vous ce matin. Première direction, c'est avoir une foi fondée. Hébreux 11 nous parle d'une foi qui est fondée. Hébreux 11 au verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Petite parenthèse ici, pour qu'on puisse bien comprendre de quelle foi l'auteur nous parle. Il y a en fait trois aspects à la foi, trois types de foi. La foi qui sauve, le don de foi, et puis vivre par la foi. La foi qui sauve, Éphésiens 2, verset 8, dira « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ pour être sauvés, pour être pardonnés de nos péchés, pour être réconciliés avec Dieu. Et personne ne peut devenir chrétien sans avoir la foi pour être sauvé. L'apôtre Paul dira au gardien de la prison « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Il a ajouté « Toi et ta famille ». Et c'est ce qui s'est passé pour lui dans cette fameuse nuit. Jean 3, 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils » afin que ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie, qu'il ait la vie éternelle. La foi qui sauve. Ensuite, la Bible parle aussi du don de foi. 1 Corinthiens 12 nous donne toute une liste de dons. Il y a 9 dons, parmi lesquels on trouve le don de foi. Alors, il s'agit là d'une mesure de foi surnaturelle accordée dans des circonstances particulières lorsque la foi ordinaire, simple, ne suffit plus. C'est la capacité surnaturelle de faire confiance à Dieu devant certaines difficultés. Là, on pense à Daniel dans la fosse aux lions. Il a fallu vraiment de la foi pour que les lions restent tranquilles. Par contre, pour d'autres circonstances, il a fallu aussi des dons de foi, une foi supplémentaire pour que les chrétiens, rappelez-vous, les premiers chrétiens, lorsqu'ils sont entrés dans les arènes, ont été dévorés par les bêtes sauvages, par les fauves, ou parfois sont montés sur des bûchers, on les a brûlés vifs. Il a fallu là aussi la foi pour faire face à ces circonstances particulières. Et puis enfin, troisième aspect de la foi, c'est la vie par la foi. C'est la confiance en Dieu au quotidien. 2 Corinthiens 5, verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue », au sens physique du terme. Vous avez sans doute rencontré, comme moi, des gens qui vous disent « Moi, je ne crois que ce que je vois ». Eh bien, le chrétien, lui, il croit des choses qu'il ne voit pas. Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il y a ici, dans le mot démonstration, l'assurance ferme ici, la ferme assurance, pardon, c'est le mot hypostasis qui veut dire substance, fondement, fondation, solide certitude. En 45 ans de ministère, j'ai entendu beaucoup de choses sur la foi. Les uns m'ont dit, la foi, c'est une invention, le fruit de l'imagination. De gens qui sont plus ou moins fragiles et qui croient en un Dieu qu'ils se sont fabriqués. J'ai entendu, la foi, c'est l'optimisme. Ça va aller, j'ai la foi. Mais la question, c'est en quoi, en qui, et quel est l'objet de votre foi? C'est ça qui est important. Jésus parlera d'une foi comme un grain de moutarde, parce qu'en réalité, ce n'est pas tellement la somme de foi qui est importante, mais c'est l'objet de notre foi. Et ce matin, nous avons un Dieu qui est extraordinaire, qui sort de l'ordre. La théologie dira le tout autre. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Si on pouvait imaginer la grandeur de Dieu, mais Dieu est bien plus grand que notre compréhension de sa grandeur. Et on va y venir dans un instant. D'autres l'associent à la confession positive. Ils croient qu'à force de répétition, la chose va se réaliser. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. C'est la méthode Coué. Hein? C'est la pensée positive, mais ce n'est pas vraiment la foi. D'accord ? Pour d'autres, la foi est une question de déclaration, de proclamation. Je déclare. Oui, nous déclarons la parole de Dieu. Nous avons confiance dans ce que le Seigneur nous dit, dans ses promesses, dans sa parole. C'est important. Mais nous ne croyons pas à la puissance de la déclaration pour la déclaration. Très souvent, dans une perspective de réussite, de succès, de bénédiction, de guérison. J'ai accompagné cette semaine une famille en deuil. Le papa a fait une chute et pendant toute une année, il est resté tétraplégique. Et la famille avec les enfants ont prié et ils ont cru, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, tu peux faire toutes choses. Et c'est vrai que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et ils ont cru et ils ont prié de toute leur force. Ils ont fait confiance au Seigneur, mais en même temps, ils ont eu cette sagesse de dire, mais Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain. C'est toi qui fais les miracles, ce n'est pas nous. Et nous avons confiance que tu sauras faire les choses à ta manière. Seigneur, tu es souverain. Et le Seigneur a repris ce papa, ce mari, et nous avons fait les obsèques, nous avons organisé les obsèques, et ça a été un moment très émouvant. Mais un moment fort empreint de la présence de Dieu. Et lorsque Dieu ne guérit pas, il est là avec sa présence. Jésus n'a jamais promis la guérison, mais il a promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Et ça, ça nous suffit. Ça nous suffit. S'il guérit, alléluia. Nous le croyons. Nous croyons en un Dieu qui guérit. Mais s'il ne le fait pas, comme les amis de Daniel devant le roi, sache que notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. C'est difficile, c'est douloureux, c'est dur, mais c'est là l'attitude qui convient pour des chrétiens. C'est Dieu qui opère les miracles, ce n'est pas nous. Alors la foi dont nous parle l'auteur des Hébreux, ce n'est pas la foi dans la foi. Sinon, si vous placez votre foi dans la foi, l'objet de votre foi, ce n'est pas Dieu, mais c'est la puissance de la foi. Ce n'est pas juste. Pour d'autres, la foi est un sentiment. Ah, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai le sentiment que ça va bien aller. Mais si notre foi se résume à un sentiment, elle va être fluctuante. Le sentiment, c'est comme un ascenseur. Il monte, il descend. Un jour, vous êtes bien, puis le lendemain, c'est la cata. La foi véritable s'appuie sur Dieu, sur sa parole, sur ses promesses, et non pas sur les promesses des hommes ou les préférences des hommes. La foi est active, Elle est une démonstration, dit le texte, une action, pas un sentiment. Abel a offert, Noé a construit, Abraham est parti, Moïse a quitté. Et les verbes qui sont utilisés ici nous disent que la foi, ce n'est pas attendre passivement que les choses se passent, que Dieu fasse quelque chose, non. La foi, c'est faire notre possible, comme l'a rappelé tout à l'heure Anita dans ce don prophétique, c'est faire notre possible et faire ce qui est en notre pouvoir et en même temps faire confiance à Dieu pour l'impossible, pour ce que seul lui est capable de faire. Et donc la foi implique une certaine part d'action, une collaboration de notre part. Les témoins dans Hébreux 11 ont agi en fonction de la confiance qu'ils avaient en Dieu. Alors, ils avaient certainement peur aussi, comme nous tous, et c'est normal d'avoir peur. Mais la foi et la confiance en Dieu peuvent nous aider à surmonter nos peurs. Donc, une foi fondée sur un fondement, avec un verset clé ici, c'est le verset 3. Écoutez bien, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Alors, avant de nous parler des témoins de la foi, il pose un fondement pour la foi. C'est celui de la création. C'est intéressant ici. L'univers, c'est un pluriel. Aionas, les mondes, l'univers. C'est Dieu qui a créé tout ce qui existe, l'espace tout entier, la matière, l'énergie, les gaz, les galaxies, les étoiles, les planètes. Vous pensez aux milliards de galaxies. Et quand vous pensez que chaque galaxie contient un milliard d'étoiles et que Dieu donne un nom à chaque étoile, c'est ce que nous disent les psaumes. Alors là, on a le vertige. On a le vertige. Voilà le genre de Dieu que nous adorons. Il a fait tout cela, dit la théologie, ex nihilo, à partir de rien. Alors quand on dit cela, on passe pour des fous, pour des naïfs, pour des simples d'esprit. Je pense qu'il faut beaucoup plus de foi pour croire que tout s'est fait à partir comme ça du hasard et que c'est un accident. De croire que c'est Dieu le Créateur. Même Voltaire était embarrassé. Il était embarrassé parce qu'il a bien constaté que le monde est comme une horloge. Il dit, ce qui m'embarrasse, c'est qu'il y a l'horloge et qu'il n'y ait pas d'horloger. Mais la réalité, c'est qu'il y a un horloger qui fait fonctionner l'horloge. Vous pensez à la rotation de toutes ces planètes, à l'évolution, comment les choses évoluent dans l'univers. C'est juste impressionnant. Et cela nous a été révélé par la parole de Dieu. Nous n'étions pas là au moment de la création. Mais la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une révélation. Nous le croyons parce que c'est écrit et que Dieu l'affirme. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé, c'est-à-dire organisé, ordonné, harmonisé par la parole de Dieu. Alors, quel est le message derrière tout cela? Le message, c'est le suivant. Si tu peux accepter la création de l'univers par la foi, si tu peux croire que Dieu est le créateur de toutes choses, alors aucune de tes difficultés ne sera trop grande pour lui. Failli entendre un « Amen ». Aucune difficulté ne sera trop grande pour lui. Parce que lorsque tu réalises que ton problème est entre les mains de celui qui a créé les centaines de milliards de galaxies et les centaines de milliards d'étoiles, d'abord le problème devient tout petit. Tu peux avoir confiance qu'il saura gérer ta situation. Moi, je crois, frères et sœurs, que c'est vraiment le message que Dieu veut mettre sur vos cœurs ce matin. le Dieu de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses, saura gérer ta situation. Tu peux te reposer sur lui. Et j'aime beaucoup ce chant qui dit « Christ est ma seule fondation ». Il était là dès le début. Il était là au moment de la création. Il est notre fondation. Jérémie 32, verset 27, dira la chose suivante. « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature, de toute création. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi ?» La réponse est non. Non. Une foi fondée. Deuxièmement, une foi équilibrée. Au verset 33 du chapitre 11 des Hébreux, « Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, étaient vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. » Alors ce passage met en évidence les victoires, les réussites, les bénédictions, les guérisons et même des résurrections. Les résurrections de mort ont réponse à la foi. Ces témoignages nous sont rapportés pour nous encourager. Et Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Toujours cette lettre aux Hébreux nous rappellera au chapitre 13 et au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pour l'éternité. Notre mouvement des Assemblées de Dieu de France est né dans le miraculeux. En 1930, avec l'arrivée d'un prédicateur qui s'appelait Douglas Scott. On a une fameuse salle Douglas Scott au sous-sol qui rappelle l'histoire de cet homme venu en France depuis l'Angleterre. Il était en partance pour l'Afrique et il s'est arrêté au Havre. Il a fait des réunions au Havre et dans ces réunions, il y a eu des manifestations, des miracles, des guérisons, des aveugles ont retrouvé la vue, des boiteux. À l'époque, il y avait énormément d'hommes, de femmes atteints de tuberculose et ils ont été guéris instantanément. Il n'y avait pas encore la télé comme aujourd'hui, les moyens de communication, mais dans les transports en commun, on ne parlait que de cela. Et à partir de là, comme une traînée de poudre, les églises ont ouvert dans les villages, dans les villes, gauche à droite, et c'est ainsi qu'est né le mouvement de Pentecôte, le mouvement des Assemblées de Dieu de France. Le temps des miracles n'est pas passé. Lorsque nous sommes allés en Côte d'Ivoire en 1975 avec Evelyne, on a entendu des témoignages extraordinaires. Les chrétiens d'Abidjan nous racontaient comment, au début des années 70, dans le fameux stade Oufouette-Boigny, il y a eu des manifestations, des rencontres, des réunions où des hommes et des femmes ont été guéris miraculeusement. Il y a eu des délivrances extraordinaires. Ceux qui étaient possédés par les démons ont été délivrés. Les aveugles ont vu, les boiteux ont commencé à marcher, les paralysés. Tous les malades ont été guéris. Et on nous racontait même que lorsque la police était au carrefour, la police disait « Soyez guéris au nom de Jésus ». Il y avait un tel climat de réveil spirituel que les gens étaient guéris. On a entendu des reportages, des témoignages extraordinaires. Et lorsqu'on a interrogé le président Oufouette-Boigny à l'époque, il disait « Dieu visite notre pays ». Le temps des miracles n'est pas passé. Mais il y a une autre réalité que l'auteur veut nous montrer au verset 35. « D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » C'est-à-dire qu'ils n'ont pas renié leur foi sous l'effet de la torture. D'autres encore ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, sciés. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis, de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. de génération en génération, les croyants ont connu des heures de gloire, mais également des saisons de souffrance. Et Dieu n'a pas toujours répondu à leurs attentes, à leurs prières, à leur foi, la manière dont ils s'y attendaient. Il y a eu des drames, il y a eu des massacres, il y a eu des persécutions. Cette semaine, je parlais avec un des responsables de la porte ouverte à Mulhouse. Il y a Portes Ouvertes, c'est avec Frère André, c'est l'organisation qui s'occupe de l'église persécutée, et l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, avec le pasteur Samuel Peter Schmidt. Je parlais avec l'un des responsables qui me disait que pendant la période du Covid, ils ont eu 34 décès. Et il m'expliquait que c'était une période difficile, une période douloureuse, où il a fallu accompagner les familles. Ce n'était pas simple. Mais c'est la réalité. L'histoire de l'Église est jalonnée de souffrances. Étienne a été le premier martyr de l'Église. Savez-vous de quelle manière sont morts les apôtres de Jésus-Christ ? Pierre a été crucifié la tête en bas, selon la tradition. Jacques, le fils d'Alphée, a été jeté du temple d'une hauteur de 30 mètres. André a été crucifié. Jacques, fils de Zébédée, a été décapité. Philippe a été lapidé et ensuite crucifié. Barthélemy a été flagellé, écorché vif, crucifié et ensuite décapité. Je continue. Thomas a été transpercé par une lance. Matthieu a été tué par l'épée. Jude est mort en martyr. Simon le zélote a été découpé à la scie. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Après avoir été immergé dans un bain d'huile bouillante à Rome, condamné à l'exil à Patmos, dans l'isolement et la solitude. Est-ce que je continue ? L'apôtre Paul, la plupart de ses lettres ont été écrites depuis la prison. Et lui-même a été décapité à Rome. Ça, c'est une réalité, frères et sœurs. C'est une réalité. Je rappelle que selon l'index mondial de la persécution, aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Donc, merci Seigneur, parce que nous pouvons librement nous retrouver, nous réunir, nous rassembler, chanter et louer le Seigneur sans être inquiétés. Donc, une foi fondée, une foi équilibrée, qui prend en compte le possible de Dieu, le miraculeux, mais en même temps, le fait que Dieu nous accompagne dans notre souffrance. Et puis troisièmement, une foi approuvée. Hébreux chapitre 11, verset 2, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Une autre traduction, celle du Semeur, dira que les anciens ont été approuvés par Dieu. Au verset 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Autrement dit, ces hommes et ces femmes de foi ont laissé un bon témoignage au monde. Dieu leur a donné son approbation. Ils étaient agréables à Dieu. Je crois que ça devrait être aussi notre souci en tant que chrétiens d'être agréables à Dieu. Le Nouveau Testament appelle cela cette attitude, glorifier Dieu. C'est le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu, c'est de lui être agréable. En faisant confiance à Dieu dans notre marche quotidienne, nous le glorifions. Et l'apôtre Paul le rappellera, il dira au chapitre 5 de 2 Corinthiens, au verset 9, « Nous nous efforçons de lui être agréable. » C'était sa ligne de conduite. D'ailleurs, Jésus aussi, lui, a toujours été agréable à Dieu. Jean 8, 29, je fais toujours ce qui lui est agréable. Moi, j'aimerais pouvoir dire la même chose, et vous sans doute aussi. On n'y est pas toujours, on y travaille, on essaie de progresser. Mais Jésus pouvait le dire, je fais toujours ce qui lui est agréable. Et le fait d'être agréable à Dieu, le fait d'être approuvé de Dieu, ne veut pas dire qu'on va être approuvé des hommes. Parfois, c'est possible, bien sûr, les premiers chrétiens, dans un premier temps, étaient approuvés de Dieu, et puis ils avaient l'approbation de la société. Mais ça n'a pas duré. Donc le fait d'être agréable à Dieu ne veut pas forcément dire que vous allez être toujours approuvé. On ne va pas venir vous taper dans le dos, vous applaudir. Mais vous avez l'approbation de Dieu. Et la question ce matin, c'est la suivante. Est-ce que l'approbation de Dieu est suffisant pour toi? Est-ce que ça te suffit? Je vais appeler les musiciens à revenir sur l'estrade. Quand tu sais que tu es agréable à Dieu, peu importe que l'on t'aime ou que l'on ne t'aime pas, peu importe ce que l'on dira de toi, parce que la plus grande récompense pour une vie de foi, c'est d'être approuvé de Dieu. Et ensuite, évidemment, il y a toute la perspective de l'éternité, la perspective du ciel. Mais Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore celui qui lui fait confiance. Et Colossiens 3 rappellera cette parole forte aussi. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Le fait de plaire à Dieu, d'être approuvé de lui, c'est une question importante. Je voudrais m'arrêter avec vous ce matin, en terminant ce message, me posant avec vous devant le Seigneur, lui disant, mais Seigneur, comment est-ce que tu vois les choses avec moi? Comment tu sens? Comment tu perçois? Est-ce que je suis agréable? Est-ce que tu es à l'aise avec moi, avec ce que je vis, ce que je crois, ce que je pense, ce que je fais? Est-ce que tu es à l'aise dans ce que je suis? Est-ce que ma vie est alignée sur celle des hommes et des femmes de foi? Est-ce que ma vie est alignée sur la foi de Jésus, sur qui il était, ce fondement dont je viens de parler? En toute transparence, nous voulons prendre ce temps et nous tenir devant lui. Et si c'était ce matin une remise en question, une ouverture, à travers de laquelle le Seigneur pourra parler encore et mettre cette graine de foi pour qu'elle puisse se développer. Que j'ai une vie qui soit fondée, une vie équilibrée, une vie approuvée de lui. Est-ce qu'on veut prendre juste quelques instants et prendre le temps de prier sur la base de ces pensées de ce matin? Seigneur, je te remercie parce que nous sommes à un degré ou à un autre de notre foi ce matin, degré ou un autre de notre cheminement, de notre parcours. Quelqu'un peut être besoin de la foi qui sauve. Alors, tu es là, Seigneur, pour sauver et pour accorder cette foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole. Merci pour la parole. Elle est la vérité. Merci aussi de nous accorder de pouvoir vivre par la foi. Cette foi au quotidien dont nous avons besoin. Et merci aussi d'accorder, si nécessaire, pour quelqu'un qui passe par des moments compliqués, difficiles, avec des difficultés, ce don de foi, ce don supplémentaire de foi. Oh, tu es le Dieu fidèle, et nous t'en remercions, Seigneur. Merci de nous venir en aide. Merci parce que notre foi a un fondement. Merci parce que notre foi peut être équilibrée. Et merci parce que tu nous donnes la possibilité d'être approuvés de toi. Nous ne voulons pas quitter ce lieu sans que tu nous aies parlé, Seigneur, sans que tu nous aies donné comme un attouchement, comme quelque chose qui vient de toi, Seigneur, quelque chose de particulier, quelque chose de précis. On a besoin, Seigneur, vraiment d'être atteint par ta parole et repartir de ce lieu fortifié, édifié, encouragé, stimulé. Notre monde est tellement triste, tellement désespérant que nous voulons prendre notre place et être des hommes et des femmes de foi, avec une foi fondée, une foi équilibrée et une foi approuvée, une vie fondée, une vie équilibrée et une vie approuvée de Dieu. Merci Seigneur de nous faire cette grâce et à toi toute notre louange et toute notre reconnaissance. Et ceux qui sont d'accord avec moi disent un grand Amen. Amen. Merci.
Ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable, Seigneur. Toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie.
À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
Voilà, si d'une manière ou d'une autre vous avez été touché, encouragé ce matin, dans quelques instants il y aura une équipe qui pourra se tenir là, d'écoute et de prière. Si vous avez besoin de partager ce qu'il y a sur vos cœurs, ce que vous traversez, n'hésitez pas, l'équipe sera là pour vous. Mais juste avant qu'on se sépare ce matin, on a un temps de présentation. Alors je vais inviter Jules, Léo, Raphaël, Alexandre et Camille de venir. Raphaël est né le 1er septembre. Et dans nos milieux évangéliques, on n'a pas pour habitude de baptiser les enfants parce que nous croyons que c'est celui qui croit et qui se fait baptiser qui sera sauvé, parce que c'est ce que l'Écriture enseigne. Mais nous croyons par contre à la prière et au fait de présenter cet enfant, mais la famille complète, au trône de la grâce. Et c'est un espèce d'échange et de vis-à-vis. Pourquoi ? Parce que les parents s'engagent à mettre tous leurs efforts pour que Raphaël puisse un jour faire ce choix de suivre Jésus en étant des modèles, en lui communiquant aussi les valeurs de l'Évangile. Et l'église locale qui les accueille depuis tant d'années maintenant, avec tout le département 025 qui vont accompagner aussi Raphaël comme ils le font, comme ils le font pour Jules et pour Léo dans les étapes de leur enfance. Alors, pour prier pour eux, je vais vous inviter à vous lever, mais je vais demander à une famille qui a été impliquée longtemps dans le département enfance de notre église, plus d'une dizaine d'années, si vous voulez bien venir, Elsa et Guillaume Berchtold, parce qu'il n'y a rien de tel que des parents pour prier pour des parents. Et c'est le ministère de l'église, alors on va les inviter à bénir Raphaël. Michel, tu peux venir aussi, hein, pour entourer Anita, si tu es dans le coin, tu peux venir aussi. On va les entourer, on va demander la grâce de Jésus sur Raphaël, mais sur toute la famille. Parce qu'on sait qu'être parent, c'est un défi, mais avec la grâce de Jésus, c'est possible. Amen. Alors, je ne sais pas, lequel des deux veut commencer ?
Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu donnes, parce que la vie est un miracle. Et la vie vraiment est un émerveillement. Et aujourd'hui encore, tu nous montres qu'à travers cette famille, cette naissance, tu te glorifies. Alors nous te prions pour Raphaël. Seigneur Jésus, que tu puisses bénir cet enfant. Dès son plus jeune âge, tes yeux étaient sur lui. Et tu l'as formé, tu l'as tissé dans le ventre de sa mère. Et je te prie vraiment que maintenant, tu puisses poser ta main sur lui, le bénir jour après jour. Garde-le dans sa santé, garde-le dans sa croissance physique, mais Seigneur, spirituellement, qu'il puisse grandir, qu'il puisse germer cette foi qu'on a entendue ce matin. et qu'il puisse être source d'émerveillement pour toute sa famille. Nous te prions pour les parents, pour les frères. Seigneur, sois vraiment avec eux jour après jour. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour les miracles que tu accomplis aujourd'hui et pour cette vie que tu donnes. Amen. Amen.
Merci Père pour ce don magnifique que tu donnes. Merci pour Raphaël. Merci pour cet enfant qui est un don de ta part. Merci parce qu'il est un cadeau comme l'ont été Jules et Léo aussi pour ses parents. Et je te prie vraiment que tu les accompagnes, que tu accompagnes Raphaël toute sa vie, de même que Jules et Léo, que tu bénisses les parents. Oh Dieu, nous nous rappelons combien, comme l'a dit Michel ce matin, tu es le Dieu tout autre, le Dieu tout puissant. Le Dieu, Seigneur, qui nous aide dans toutes circonstances. Merci parce que tu es au-delà de toute situation. Que tu donnes vraiment à tes parents toujours la vision que toi tu as de ces enfants, de Raphaël, de Jules, de Léo. Merci parce que constamment, Seigneur, quand on a les yeux fixés sur toi, comme disait Michel, tu nous renouvelles notre vision. Et c'est toi qui vas accompagner cette famille, cet enfant, durant toute sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
On peut applaudir cette belle petite famille qui sont aussi également bien impliqués à la louange, à toute la partie technique. Alex, c'est grâce à Alex qu'il y a toutes ces lumières, tout ce internet qui fonctionne, etc. Et quand ça ne fonctionne pas, il est celui qui répond au téléphone, même quand il n'est pas là le dimanche matin. Merci à vous. Voilà, il me reste à souhaiter un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. On salue aussi ceux qui nous ont suivis sur internet ce matin. Dimanche prochain, on se retrouve ici pour nous tenir pour l'Église persécutée, écouter des témoignages et prier pour nos frères et sœurs en captivité. Que le Seigneur vous bénisse.